Merci beaucoup, Catherine. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je pensais ce matin arriver plus tôt, j'étais bloqué. Voilà. Je vais essayer de tenir en 10 minutes voilà, sur le thème qui est le nouveau cadre conceptuel et pédagogique. Ils ont 5 minutes pour le cadre conceptuel. Et 5 minutes pour le cadre pédagogique. Voilà, comme l'a rappelé Catherine, je suis à la frontière entre les mondes professionnels et puis universitaires, étant actuaire agrégé, mais ayant aussi une HDR et une qualification CMU. Et du coup, j'essaie de faire le pont entre l'enseignement universitaire, la recherche et les pratiques en tant qu'actuaire engagé dans les modèles de risque pour une compagnie d'assurance. Voilà. Bon, donc, 5 minutes pour le cadre conceptuel. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit en introduction Marc à propos de l'hypothèse centrale de la finance néoclassique, qui est cette notion bizarre d'impossibilité, d'absence de possibilité d'arbitrage, qui est une notion en fait mathématiquement construite, pour dire que, à mon avis, une des ressources importantes pour refonder la finance et la reconstruire, serait d'aller creuser du côté de l'histoire des sciences, qui aujourd'hui n'est pas suffisamment, à mon avis, utilisée pour chercher des idées nouvelles dans la mise en place d'un nouveau cadre paradigmatique en finance. Pourquoi ? Parce que si on prend cette hypothèse centrale d'absence d'arbitrage possible, en fait, elle repose mathématiquement sur une autre hypothèse très précise qu'on pourrait appeler une sous-couche mathématique à la finance, mais une sous-couche qui résiste, une sous-couche dure. Quelle hypothèse de continuité dans les variations économiques et financières? Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, si l'on veut changer, mettons, des notions en finance par des valeurs ou par d'autres types de modèles, mais si on ne touche pas au socle invisible mais très présent, à cette sous-couche, on va dire, mathématique de la finance, en l'occurrence des modèles ou des processus aléatoires à base de continuité, ben finalement, il ne se passera pas grand-chose. Et donc, ce serait intéressant de mettre côte à côte deux histoires parallèles, l'histoire de la finance néoclassique, avec toutes ces conséquences négatives que l'on connaît bien, et l'histoire des sciences, c'est-à-dire la manière de pouvoir saisir comment les modèles mathématiques ont été à l'origine, ou du moins ont eu un effet de réel, c'est-à-dire ont conduit les universitaires à imaginer des choses. Je prends un exemple très très pratique, le risque de crédit. C'est très simple, depuis toujours on en fait, bon, ça n'a pas été une innovation financière, mais finalement on voit que dans les années 90, à partir de données très empiriques sur des défaillances d'entreprises aux États-Unis qui ont donné lieu à ces fameuses matrices de taux de défaillance, en fait certains se sont dit, si l'on imaginait une continuité dans les dynamiques boursières, ou si on imaginait faire des projections de ces matrices à 7, 8, 10 ans, alors qu'en fait, on n'avait que des données à un an, peut-être pourrait-on imaginer aussi mathématiquement d'autres types de produits. Et de fait, quand on regarde la littérature mathématique en finance avec un prisme, on va dire d'histoire des sciences, ou d'épistémologie historique, ce terme en fait technique introduit par Bachelard dans la tradition française, on verrait que les grands articles de Landau, Jarreau et Turnbull en 97 et leurs successeurs, en fait, ont construit mathématiquement quelque chose qui rendait possible d'imaginer les dérivés de crédit, les CDS. Autrement dit, sans les articles des années 90 et leurs successeurs, on n'aurait pas pu construire juridiquement des CDS. Ça veut dire que le produit financier CDS s'appuie sur un substrat mathématiques que l'épistémologie historique permet de détecter assez rapidement. Donc ceci pour illustrer, voilà, pour plaider en faveur d'un regard d'histoire des sciences sur la finance et de, au fond, de l'utilisation des ressources de l'épistémologie pour forger un nouveau paradigme. Alors j'ai été très heureux de pouvoir contribuer à cette très belle entreprise collective du livre The Making of Finance. Là, j'étais vraiment ravi, en plus Yamina, je connais depuis longtemps. Voilà, Marc Landais, je le vois souvent. Et finalement, dans ce livre, je me suis dit que ça vaudrait la peine de proposer cette réflexion. Et donc j'ai fait un chapitre sur une des grandes controverses scientifiques, pas de la finance, mais qui traverse la finance par en dessous, qui a été ouverte par Mandelbrot dans les années 60, mais qui bien entendu dépasse complètement la figure de Mandelbrot, et qui a été la controverse entre la discontinuité et la continuité. En disant en chapitre, finalement, ceux qui promeuvaient les approches discontinues contestaient la finance néoclassique. Et les raisons du refus, mettons, du paradigme dominant dans la finance américaine, les grands modèles que vous connaissez, même pas Black-Scholes, car c'est trop ancien, mais les gros modèles des Jerome Horton, s'appuient sur la continuité. Donc le rejet des courants de pensée discontinus européens, je pense à la Suisse, à l'Allemagne, à la Norvège, australien, enfin tous sauf le nord-américain, est venu en fait, à mon avis, d'une idéologie qui l'a emporté sur des caractéristiques de type corroboration de modèles. Et donc dans ce chapitre, en fait, j'ai cherché à rendre compte de cette controverse en suggérant que pour refonder un nouveau paradigme en finance, là aussi, au fond, les ressources de l'épistémologie historique permettaient de dégager quelque chose d'important sur les enjeux d'une hypothèse mathématique cachée dans le débat éthique, mais pas assez visible. Moi, ce qui frappe beaucoup, je regarde l'heure, mais moi, je connais bien le milieu des fonds caritatifs et des fonds éthiques et partage pour les côtoyer professionnellement. Et souvent, on me dit « Ah, mais nous, on est gentils, pas méchants, parce qu'on a des valeurs et on pense aux autres. Donc, on va gérer des fonds en pensant aux autres. Et en fait, on va rajouter l'argent comme il faut. » Et en fait, en termes de gestion des risques, les gestionnaires éthiques gardent les mêmes outils mathématiques que les gestionnaires pas éthiques. Et j'en dis, vous savez, vos outils, c'est ceux des hedge funds. Ah, mais non, parce qu'eux, ils sont méchants, parce qu'ils ont des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc derrière ça, ce qu'on entend du point de vue philosophique, c'est qu'il y a une position positiviste sur la mathématique financière. Et ce que je pense, en fait, dans cette proposition exposée, c'est qu'il serait important de déloger ce positivisme qui bloque finalement en partie les approches de refondation de la finance qui s'intéressent surtout à la surcouche financière, aux produits avec ou non des valeurs, mais pas, peut-être pas suffisamment à la sous-couche mathématique qui peut bloquer la surcouche. Donc ça, c'est, on va dire, le cadre conceptuel en 5 minutes. En résumé, ça veut dire considérer les ressources de l'histoire des sciences pour repenser le paradigme de la finance à partir de l'histoire des statistiques et des probabilités. Et repérer sous la finance un autre cadre très puissant, très prégnant, qui, en tout cas sur 40 ou 50 ans, a véritablement bloqué les tentatives de changement des modèles financiers. Juste pour finir sur le cadre conceptuel, on sait bien que dans la conception des CDS ou dans l'approche des couvertures de portefeuille, si on change le type d'aléa, même si on n'avait que des gens cupides et avides, ne voulant que s'en faire plein les poches et gagner un maximum d'argent, en fait, techniquement, ce serait impossible. Ça n'innocente pas ceux qui ont fait ça, mais ça montre qu'il y a un enjeu sur la manière dont le carburateur alimente certains modèles mathématiques. Donc voilà, sur le cadre conceptuel, en 6-7 minutes, l'idée c'est de, pour trouver un nouveau cadre conceptuel, regarder ou faire un détour épistémologique, un peu comme en bateau, vous savez, on vise un point, mais on tire un bord et on revient. Voilà, tirer un bord par l'épistémologie. Je reviens maintenant aux 5 minutes sur le cadre pédagogique. Alors ça, cette idée, en fait, on a cherché à la chaire éthique et finance, à la mettre en pratique en créant un nouveau enseignement, un nouveau type de séminaire de niveau Master 2, M2 Recherche, qui était un séminaire interdisciplinaire. Ça veut dire qu'en pratique, on a ouvert le séminaire de M2 à trois publics d'étudiants différents, en le rendant validant en termes d'UV par des accords avec les trois disciplines concernées. Donc on a ouvert ça aux économistes avec l'UFR d'économie de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On l'a ouvert aux philosophes, et ça c'est, je vous en parlerai, c'est très intéressant, avec l'UFR de philosophie de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et on l'a ouvert aux statisticiens avec l'ISSUP de Paris 6 Pierre et Marie Curie. Et depuis maintenant 3 ans, en fait, on a un séminaire qui tourne, que la chaire dispense, avec une vingtaine d'étudiants issus d'économie, de philosophie et de statistique. Et dans ce séminaire, ce qu'on cherche à faire, puisqu'on a des étudiants qui n'ont aucune base mathématique, c'est entrer dans les modèles, à la limite en s'arrêtant à l'introduction de l'article, ou l'argumentation et aux conclusions, et pas à la technique. Et l'intérêt, c'est de pouvoir comprendre ce que le modèle mathématique de la finance mobilise comme implicite en matière d'hypothèse. Alors, j'ai parlé évidemment de Black-Scholes, mais Yves-Jérôme Morton, en gestion des portefeuilles, la gestion indicée ou indicielle s'appuie sur une hypothèse très forte qui est celle du modèle linéaire. Donc, dégager le modèle linéaire des modèles comme le CAPM-MEDAF. Pourquoi est-ce que le modèle linéaire, qui était très à la mode en 1830, est revenu en finance en 1960, d'où ça vient? C'est quand même bizarre, ça a 150 ans qu'on le prend comme moderne. Vous voyez, en théorie du portefeuille, Markowitz, le grand partage des erreurs, 18e siècle, pourquoi ça revient au 20e? C'est ça qu'on regarde en fait. Voilà. Et on passe en revue des modèles, la notion de risque, la notion d'allocation d'actifs, d'arbitrage, etc. Et pour chaque cours, en fait, on essaie d'avoir, pour un modèle, une triple approche épistémologie historique, philosophique en termes d'analyse d'hypothèses, et puis technique pour voir après les conséquences de ces modèles. En fait, on fait une sorte d'histoire des sciences appliquée dans l'enseignement. Voilà, ça marche très très bien. On a été surpris de... Je dis on, parce que la chaire, on est trois. Emmanuel Picavé est avec moi... comme professeur de philosophie et Annie Cotte comme professeur d'économie. Et donc on a été très surpris du succès de l'initiative. Et j'ai relevé quelques avis d'étudiants, un peu un verbatim, c'est pas pour faire de la pub, hein. Mais je regarde l'heure, ça va? Voilà. Bon, c'est pour vous donner la réaction des étudiants. Je vous cite ce qu'ils m'ont donné comme avis à la fin du séminaire de cette année. Je vous cite. Cours hyper intéressant, sort des matières enseignées usuellement. Un autre dit approche différente, une vraie découverte. Troisième citation, puis il y a beaucoup, il y en a 7-8. J'ai beaucoup aimé ce cours pour l'aspect critique que cela apporte et les conséquences éthiques. Pourquoi est-ce qu'on parle de conséquences éthiques? Parce que si on comprend que des choix mathématiques comme le CDS conduisent à des produits par le droit juridique conduit à des catastrophes, on comprend qu'en fait un choix mathématique à la fin c'est un choix éthique. On comprend que l'éthique ce n'est pas seulement une déontologie, c'est aussi une analyse épistémique des hypothèses des modèles. Quatrièmement, donc ça c'est important pour l'éthique, ce cours donne un regard nouveau et macro sur les différents modèles, une rupture dans la façon de regarder les modèles grâce à l'approche philosophique. Je n'ai pas inventé, c'est eux qui disent, c'est pas moi. Cinquièmement, ce cours apprend à comment être critique sur un modèle. Vous voyez le côté regard critique sur le modèle. Ne pas se contenter de l'implicite, de ce qui est naturel. Ne pas naturaliser, en fait, ce qui n'est pas naturel. Sixièmement, c'est bien d'avoir cette sensibilité à l'étude critique des modèles. Septièmement, j'ai beaucoup aimé la séance sur les martingales. On a fait une séance sur les martingales. Donc, les martingales étant cette dynamique aléatoire qui, etc., etc. Le même, un autre a dit, le questionnement linguistique sur la martingale, deux points super essentiels. On n'a pas ça en maths, c'est très important pour l'étude des concepts. Parce qu'en fait, les martingales, c'est une des clés de voûte de la réglementation européenne en finance. Je pense à Bâle 2, Bâle 3, Bâle 2 surtout, solvabilité 2 et MIFID. Donc s'il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de réglementation. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans les martingales pour comprendre comment le superviseur met en place l'espace financier européen. Et enfin, par exemple, dernièrement, secours est bien car cela apporte une culture. Donc voilà. Donc en fait, c'est pour dire que il y a quand même une demande chez les jeunes pour avoir un autre regard sur la finance que le paradigme usuel. Et donc, ce cadre pédagogique nouveau, qui a été mis en place entre plusieurs disciplines, permet à des étudiants de discuter entre eux. En général, je fais une présentation, on s'arrête, on fait une pause, il y a une discussion entre les trois types de publics. Et on va parler entre eux des philosophes, des statisticiens, des économistes, et c'est passionnant. Parce qu'ils vont forcément sur des modèles à regard différents. Ils font des remarques très pertinentes. Moins ils ont fait de maths, et plus ils font aux statisticiens des commentaires critiques pertinents sur des petits paragraphes d'articles genre hiéroglyphes mathématiques partout. C'est très intéressant en fait. Et voilà, donc en conclusion, je pense que le point commun de ce très court exposé en deux temps, c'est de dire il y a des ressources aujourd'hui pour faire une finance autrement. Ces ressources, on les trouve dans le champ de l'épistémologie historique. Il ne faut pas hésiter à faire ce détour par là, y compris dans l'enseignement, parce qu'au fond, ça apporte aux étudiants et aux jeunes un regard différent sur les modèles, et finalement, ça apporte aux professionnels une capacité à sortir, on va dire, des paradigmes dans lesquels ils sont enfermés, et ça peut en même temps être une stimulation pour ce qu'on pourrait appeler la finance dominante ou paradigmatique, en questionnant cette finance par un axe non technique sur des points centraux de certains aspects des modèles mathématiques. Le fait, encore pour terminer un exemple, on parle de comportement d'agent, on aura une fonction d'utilité, comme par hasard, il y aura tous ces moments. M1, M2, M3, M4. On peut dire à celui qui a fait ce très beau modèle mathématique, mais est-ce qu'on est sûr qu'il y a bien un M2? Il dira, c'est quoi ce truc? Mais lui, il dira, on va mettre des valeurs dans le M2, le M3, le M4. Et nous, on dira, est-ce que le M2 existe? Vous voyez, c'est la différence. Dans les deux cas, on a une approche éthique, mais soit par les valeurs, soit par les hypothèses même des modèles. Voilà pour terminer cette introduction à une façon de penser un nouveau cadre conceptuel et pédagogique.
Merci Christophe.